Merci David, merci à chacune et à chacun d'être présent. Bonjour à toutes et à tous, content de revoir les uns et les autres. Salutations à ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Ruben, je suis pasteur à l'église protestante baptiste de Lagny-sur-Marne. Et donc ça fait maintenant quelques temps que voilà, je suis invité pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Donc, je m'excuse parce que cet après-midi là, j'ai vraiment eu un énorme contretemps et donc j'ai eu vraiment beaucoup de retard. Mais je suis avec vous et je suis très très content qu'on puisse partager ce texte qui est vraiment, waouh, c'est un texte les amis, je sais pas si ça faisait partie de vos meilleures histoires quand vous étiez à l'école du dimanche, mais il y a tous les ingrédients hein, dans ce texte. Il y a vraiment une histoire palpitante, il y a un suspense, il y a du combat, il y a de la force, il y a du feu, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est une narration dans la parole de Dieu et c'est vraiment une histoire puissante. Est-ce que des gens découvrent cette histoire? Ou en tout cas, ça faisait très 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 longtemps et vous vous êtes dit, ah oui, c'était comme ça que c'était passé cet après-midi. Est-ce qu'il y a des gens qui redécouvrent un peu cette histoire? Ou est-ce que quand même on la connaît assez bien? Quand même assez bien, hein, j'ai quand même l'impression. Donc je suis content, il y a ma fille qui est allée à l'école du dimanche, elle voulait vraiment venir cet après-midi avec nous. Donc elle est partie là à côté. Et voilà, ils font partie, c'est dès l'école du dimanche, ça fait partie des histoires qu'on raconte parce qu'il y a quelque chose de puissant. On voit Dieu puissant, on voit quelque chose de merveilleux et quelque chose qui peut encore aujourd'hui nous percuter. Mais au-delà de toute cette histoire, au-delà de cette narration, tout de suite le point, je pense, du cœur de cette histoire, le pourquoi de cette histoire, le pourquoi est-ce que c'est arrivé, est tout de suite dit dans les premiers versets. On voit ici, on pourrait croire au début à un combat entre deux divinités, à peu près du même niveau, parce que dans l'époque de ce temps biblique, les divinités, on avait vraiment, c'est vrai que quand on, nous aujourd'hui, on voit cette vision du monothéisme d'un Dieu seul et il domine toutes les autres divinités, mais dans l'époque du peuple d'Israël, et on le voit bien, le peuple d'Israël qui part d'un pied à l'autre, parce qu'en fait, il recherche quelle est la bonne divinité à servir. Quelle est la bonne divinité à honorer? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Baal? Est-ce que c'est... Et chaque peuple a un peu son ou ses dieux, et tu vois la puissance du peuple en fonction de ses victoires, et donc derrière la puissance du dieu. Et donc, là, on a l'impression qu'il y a un peuple qui doit choisir entre deux divinités du même niveau, et donc on va essayer de faire un concours. Et Akab est un peu le représentant, et malheureusement il a entraîné, on a vu en 1 Roi chapitre 16, il est dit que Akab a fait pire que ses prédécesseurs, il est vraiment un mauvais roi quand il a entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Donc il a vraiment amené le peuple d'Israël à déshonorer son Dieu, mais en plus il a épousé une étrangère qui elle-même était encore plus dans Jézabel, qui était encore plus dans ce culte des idoles. Mais ce texte ne montre pas juste une concurrence entre deux divinités. Parce que vous connaissez le résultat, hein, il est sans appel, il n'y a pas de question. Mais ce texte, c'est une interpellation puissante. Et on la voit au verset 21. « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Voilà la question de ce texte. Voilà ce qui a fait que cette histoire est là. Voilà ce qui a fait que tout est là. C'est la question au peuple. Et bien évidemment, derrière, nous verrons aussi comment est-ce que cette question vient aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Voilà un petit peu le cœur de ce texte. On voit ici vraiment une histoire impressionnante. On a un peuple qui s'est éloigné, notamment à cause de ce roi, qui est vraiment mauvais et qui l'a amené dans la plus grande des idolâtries. Et on a un peuple qui s'est éloigné du Dieu qui l'a racheté, du Dieu qui l'a sauvé. Mais du Dieu qui ne se lasse toujours pas. Il n'est pas lassé, Dieu. Il veut continuer à rappeler son peuple. Et on a un personnage ici, Élie, un personnage qui est particulièrement important. On voit un roi 17, comment il est décrit au départ, tout simplement. Élie le Tishbite, chapitre verset 1. Mais derrière, nous, on connaît l'histoire de Élie. Et Élie, il a une position très particulière dans l'histoire de la foi chrétienne. Pas juste dans l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'histoire de la foi chrétienne. Est-ce que vous savez, je pense que tout le monde sait, que vers la fin de l'Ancien Testament, il est annoncé que Élie aura un rôle à jouer, n'est-ce pas ? Il est annoncé que Élie aura un rôle à jouer, qu'il va revenir. Waouh ! Et cela se réalise, je pense que tout le monde le sait, hein, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes nouvelles dans la foi aujourd'hui, mais on peut juste survoler rapidement cela, parce que ça nous permet de reprendre un peu le contexte de ce personnage important. Élie est annoncé comme il va revenir avec l'esprit d'Élie, et lorsque Jean-Baptiste vient, Jésus dira « c'était lui l'Élie » qui devait revenir. Et effectivement, Jean-Baptiste, quand on voit un petit peu, il y avait beaucoup de rapports avec Élie, mais Élie, ici, était quelqu'un de très important dans le plan du salut. Quelqu'un qui avait une place très importante. Et c'est lui qui va amener ce peuple à réfléchir. C'est lui qui va amener ce peuple à être interpellé. Il va être choisi par Dieu pour poser cette question. Et là, évidemment, toutes les instructions qu'il a reçues. D'un côté, on a les idoles, Baal, et de l'autre, on a Élie, qui représente l'Éternel. Et alors, Baal, autant il est parfois représenté de façon assez personnalisée, mais dans la culture cananéenne, dans la culture de cette époque-là, en fait, ça peut aussi représenter les divinités. Notamment, on va le voir dans certains textes de la parole de Dieu où il est dit « ils vont revenir au culte des Baals ». Dans les Juges, par exemple, il est dit « le peuple de Dieu se détournait du Seigneur et adora les Baals et les Astartés ». Donc en fait, la notion de Baal représente ici, et c'est le nom d'un dieu qui est le plus nommé dans l'Ancien Testament, il reprend vraiment tout ce qui est idolâtrie de l'époque. Et donc à cette époque-là, vous le savez, il y avait des images taillées, il y avait et on attendait de ces divinités différentes bénédictions. Il y a les divinités de la fécondité, qui vont nous permettre d'être féconds, d'avoir des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants. Divinités de la providence, de l'abondance, au niveau de la terre. Et donc en fait, on va chercher en ces divinités des bénédictions matérielles, des bénédictions terrestres, et on va chercher en elles notre bénédiction. Et Dieu casse tout ça. Et c'est là que c'est important de comprendre aussi pourquoi est-ce que Dieu sera d'autant plus redoutable dans cette histoire. Parce que Dieu se présente comme celui qui pourvoit aux besoins du peuple d'Israël. Ils n'ont pas besoin de toutes ces divinités. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher autre part qu'en leur Dieu, ce dont ils ont besoin. Et deuxièmement, ils ne doivent pas faire de la fécondité, de l'abondance matérielle, leur quête première. Leur quête première doit être l'Éternel. Et par exemple, ce verset que nous connaissons bien, que nous mentionnons souvent quand on dit c'est quoi le plus important commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de ta pensée, on sait que c'est un commandement important pour nous. En fait, il apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Parce que c'est ce que Dieu veut déjà à l'époque pour le peuple d'Israël. Mais l'idolâtrie est une division, casse cette dynamique, parce qu'en fait, elle met Dieu au même niveau que toutes ces autres divinités, voire parfois en dessous, et elle enlève la compréhension de qui est Dieu. Et là est l'enjeu. Là est vraiment l'enjeu. Et là, on a une histoire magnifique qui nous est narrée pour nous montrer. Il n'y a pas de commune mesure, hein, vous voyez bien, hein, entre 450 prophètes de Baal qui font tout ce qu'ils peuvent, toutes leurs habitudes pour aller chercher la bénédiction de leur Dieu. Ils font tout ce qu'ils peuvent, leurs incisions, leurs traditions. Donc en fait, ils mettent en place tous les meilleurs moyens pour recevoir la confirmation que leur Dieu est Dieu. 450 prophètes. Et en face, Élie, seul, qui sait ce qu'il attend de Dieu et qui sait qui est son Dieu, au point où il va aller très loin dans ce qu'il va attendre de son Dieu. Non seulement on va mettre l'autel en place, mais on va verser de l'eau. Évidemment, les 12 pierres représentent les 12 tribus, ce peuple d'Israël qui appartient au Seigneur. Il va ici mettre de l'eau partout pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer la puissance de celui qu'il est en train de servir et pour faire comprendre au peuple d'Israël qui est leur Dieu. Ils avaient besoin d'un électrochoc aussi puissant. Et alors là, on peut relire, hein, donc verset 32, « Avec ses pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Remplissez, verset 34, remplissez d'eau quatre cruches, reversez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il lui faites-le une deuxième fois, et il le fit une deuxième fois. Faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel, on remplit aussi d'eau le fossé. » Et là, Élie qui appelle, qui rappelle au peuple d'où est-ce qu'ils viennent et pourquoi est-ce qu'ils sont censés honorer leur Dieu, verset 36, dans sa prière. Et Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur, que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Là, on voit vraiment, au début, on a vu la prière, la question de Élie. Et lui, sa réponse, c'est ça, c'est oui, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, il n'y a pas de question. Et la réponse, vous la connaissez, mais je trouve que c'est tellement puissant de la relire, verset 38. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il avala l'eau qui était dans le fossé. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait si on était présent, mais vous imaginez comment ça a dû percuter, impacter les personnes qui étaient là. Tout a été consommé par le feu. Voilà l'Éternel qu'on est censé suivre. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et la dernière phrase nous montre combien l'idolâtrie peut être grave et combien les conséquences peuvent être graves. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kishon, où il les égorgea. Ici, on a vraiment une histoire qui interpelle le peuple d'Israël et qui lui montre beaucoup de choses qu'il doit se rappeler. La première, c'est qu'ils ont été appelés à revenir régulièrement à l'Éternel. Même s'ils s'éloignent, Dieu encore et toujours leur tend la main et leur demande de revenir. Il pourrait les consommer et les vaincre sur l'instant et dire, bon ben, comme il a pu le dire à Moïse, un peuple rude, un peuple aux coups raides, je vais les exterminer et je ferai avec Élie une nouvelle nation. Mais on voit que la miséricorde de Dieu continue et encore et continue pour ce peuple d'Israël qu'il aime parce qu'il les a choisis et il continue sa grâce envers eux. La miséricorde de Dieu continue toujours envers le peuple d'Israël. La deuxième chose, c'est que ils voient que leur Dieu est quand même un Dieu qui dépasse tous les autres dieux. Très souvent, le peuple d'Israël a entendu des prophètes leur dire « Mais les idoles, ça ne fait rien, c'est des idoles muettes, elles ont des bouches et elles ne parlent pas, elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles ont des yeux, elles ne voient pas. Mais votre Dieu, c'est lui qui a créé la bouche, c'est lui qui a fait les oreilles. » Celui qui a fait les yeux, ne verrait-il pas? N'entendrait-il pas? Ne répondrait-il pas? Et là, il y a encore cet appel de dire, rappelez-vous que votre Dieu, c'est ce Dieu puissant qui dépasse toutes les idoles. Troisièmement, on voit ici aussi que Dieu veut leur rappeler que l'idolâtrie, c'est grave. Que ce n'est pas juste faire des choix, tiens aujourd'hui je suis avec Dieu et puis demain je reviens avec une idole et puis je reviens avec Dieu. Il y a des conséquences à choisir les idoles et à abandonner leur Dieu. Il y a des conséquences à prendre un chemin qui déshonore Dieu. Et souvent, ces chemins des idoles étaient suivis aussi de péchés. Très souvent, notamment pour Baal, il y avait des prostitutions sacrées. Il y avait même parfois des sacrifices humains. Et donc, des principes que Dieu a mis en avant sont bafoués lorsqu'on rentre avec les idoles. Le respect d'autrui, le respect de la vie, le respect du corps, le sacré. L'idolâtrie est grave. Et quatrièmement, cette histoire rappelle au peuple d'Israël qu'ils doivent faire un choix. Ils doivent se positionner. Ils doivent se positionner face aux idoles. Ils doivent se positionner face aux différents prophètes. Et ils l'ont parfois mal fait, parfois très mal fait. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, on retrouve ces quatre principes. Jésus-Christ est celui qui rappelle que Dieu encore appelle aujourd'hui. Dieu appelle des hommes et des femmes à venir à lui, à revenir à lui. Deuxièmement, à travers Jésus-Christ, on voit la puissance de Dieu. Ici, on a vu une puissance qui a consommé tout un autel, mais en Jésus-Christ, on voit la puissance qui non seulement ressuscite un mort, mais ressuscite aussi spirituellement des morts spirituels. Des hommes et des femmes qui, pour être séparés de Dieu, Dieu les ressuscite à travers Jésus-Christ. Troisièmement, en regardant à Jésus-Christ et en regardant à son message, on se rappelle que choisir un chemin contre Dieu, c'est grave. Parce que ça a des conséquences sur cette terre, mais aussi éternelles. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Parce qu'il est venu porter les conséquences de nos péchés. Tous ceux et toutes celles qui peut-être sont rentrés dans le culte de Baal, eh bien en Jésus-Christ peuvent être pardonnés. Parce que c'est Jésus-Christ qui a été puni pour les fautes des uns et des autres. Et quatrièmement, Jésus-Christ est aussi un rappel que l'humanité tout entière est appelée à faire un choix. Un choix face à Jésus, un choix face au chemin du Seigneur. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et Jésus ne doit pas et ne peut pas les laisser indifférents aujourd'hui encore. En effet, face à Jésus, on reçoit cette question. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur? Alors suis-le. Et si c'est quelqu'un d'autre, si c'est l'argent, alors suis l'argent. Si c'est la débauche, suis la débauche. Si c'est tel grand personnage, suis tel grand personnage. Et pose-toi la question, qui est le vrai maître? Et pour nous, c'est ça. Aujourd'hui, là où nous en sommes, et j'espère que chacune et chacun, nous sommes toutes et tous positionnés face à Jésus-Christ, conscients que, oui, Jésus-Christ, par l'image qu'il a donnée, par sa résurrection, il est le Seigneur des Seigneurs, il est celui qui mérite notre choix de vie, de suivre ses commandements. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite encore cet après-midi à reconnaître Jésus, à revenir à Jésus, à dire « Seigneur, j'ai choisi un chemin qui n'était pas le bon. Seigneur, j'ai choisi un chemin où j'ai peut-être je me suis écarté de ce que toi tu aurais recommandé, de ce que toi tu recommandais, et je reviens à toi. » Comme le peuple d'Israël est appelé à revenir à Dieu, eh bien, toutes et tous, dans cette humanité, nous sommes appelés à revenir au Seigneur. Mais ce qui m'interpelle aussi dans cette histoire, c'est que même nous, en tant que chrétiens, la question nous est encore posée. Est-ce que nous suivons? Comme il a été posé la question au peuple d'Israël, est-ce que nous suivons Dieu comme étant Dieu? Est-ce que nous le suivons entièrement, pleinement, parfaitement? Ou alors est-ce qu'on se laisse distraire par des idoles autour de nous? Et qu'est-ce que vous verriez comme idole aujourd'hui dans notre monde? Alors, on ne va pas trouver un temple de Baal, ça va être difficile, ou même maintenant, il n'y a plus de temple d'Astarté à part pour visiter les ruines. Mais qu'est-ce que vous diriez si on parlait d'idoles d'aujourd'hui, d'idoles modernes qui pourraient justement nous détourner du chemin du Seigneur. Qu'est-ce que vous diriez ? Le matérialisme, tout à fait. D'autres dieux d'aujourd'hui, d'autres idoles d'aujourd'hui, d'autres faux dieux, on va dire. La carrière, exactement. S'il y avait un dieu, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait un dieu de la réussite professionnelle, vous n'auriez pas beaucoup de gens qui iraient dans ces temples, non ? S'il y avait un dieu de la réussite professionnelle, il y aurait beaucoup de gens qui iraient dans ce temple-là. Parce que effectivement, la carrière fait partie de ce que beaucoup adorent. Beaucoup vont investir leur temps, leur énergie, leur argent pour qu'ils puissent arriver au sommet professionnel. Tout à l'heure, on parlait des déesses de fécondité. Mais finalement, voilà, d'une façon générale, la sexualité peut être un dieu. Si on regarde les milliards, peut-être même les dizaines de milliards d'euros que gagnent tous ces sites pour adultes, on voit que des gens vont investir de l'argent et du temps pour pouvoir se soulager. Et parce qu'ils sont attirés par la pornographie ou par toutes ces pratiques adultes malsaines. L'argent, la sexualité, le pouvoir, la carrière, le matérialisme, effectivement, ça peut être malheureusement des idoles qui se stallent dans notre cœur. Et ici, recevons cette question, les amis, comme le peuple d'Israël. Jusqu'à quand aurons-nous un comportement boiteux ? Verset 21. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est le matérialisme qui est vraiment le Dieu, eh bien suivez-le. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment Dieu ? C'est celui qui va répondre à vos besoins, qui va réellement répondre à vos aspirations profondes. Et en fait, on le sait, ce ne sont que des illusions. On a beau faire tout ce que les gens du matérialisme, les prophètes du matérialisme vont nous proposer, intérieurement, on ne sera jamais satisfait, n'est-ce pas ? On aura toujours des besoins profonds, parce que notre réelle satisfaction n'est qu'en Jésus-Christ. On ne sera pas sauvé en étant plein de matériel. Et tout le monde, vous connaissez cette expression qui dit, voilà, lorsqu'on arrive face à la mort, on est tous pareils, hein ? Même si tu as une très belle tombe en or, avec un très beau cercueil en pain massif, au final, on se retrouve tous pareils, sans rien, face à notre Dieu et face au jugement de notre âme. Le matérialisme ne pourra jamais nous satisfaire. Et en tant que chrétien, au final, on le sait de façon intellectuelle. Mais les amis, le nombre de fois où certains d'entre nous pouvons tomber dans la crainte, dans la tristesse, parce que nous n'avons plus l'aisance matérielle que nous pouvons avoir, ou même certains, voilà, moi je suis pas marié, donc je suis malheureux. N'est-ce pas ? Ça c'est parfois une réalité qui peut être exprimée. Ou j'ai pas la carrière que je veux, donc je peux pas être heureux, je peux pas servir Dieu pleinement parce que j'ai pas le titre que je voulais, ça fait 3 fois que je demande la promotion et je l'ai pas. Toutes ces choses-là, dans quelle mesure est-ce que nous y voyons des dieux ? Est-ce que nous y voyons, est-ce que c'est pas là que parfois nous pouvons mettre notre cœur ? Et cet après-midi, je vois vraiment que dans ce texte, il y a un appel à se rappeler ce que le peuple d'Israël est appelé à se rappeler. Premièrement, le Seigneur veut vraiment marcher avec vous. Ça, c'est formidable, les amis. Quel que soit notre parcours, comme avec le peuple d'Israël, où il envoie son prophète Élie, un personnage important, pour le rappeler à lui, eh bien, aujourd'hui encore, le Seigneur vient et revient régulièrement pour nous rappeler en disant « Mon frère, mon enfant, je veux marcher avec toi. Viens, suis mon pas. » Deuxièmement, il y a vraiment cet appel de dire, comme on l'a vu tout à l'heure, que notre Dieu est puissant. Et croyez que c'est celui qui peut vraiment combler et prendre et porter notre cœur. Porter et remplir notre vie de ce dont nous avons besoin. Toujours marqué par nos amis persécutés. Je ne sais pas si vous continuez à suivre les nouvelles de Portes Ouvertes, mais il y a des frères qui traversent des moments tellement difficiles où ils perdent tout. Encore récemment, il y a quelqu'un qui avait été jugé vraiment de façon injuste et il était convaincu que Dieu était en train de le rendre digne. Il a dit « Merci Seigneur parce que j'ai été désigné digne d'aller en prison pour mon Dieu. » Et il le disait vraiment avec reconnaissance parce qu'il avait trouvé une joie qui était autre part que dans la liberté, que dans les finances, que dans une belle carrière. Il avait trouvé sa joie en Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut encore nous dire. Soyons conscients que c'est que en Dieu que nous serons pleinement comblés et ressourcés. Rappelons-nous aussi, les amis, et vraiment, je pense que ça, c'est un rappel, rappelons-nous que le péché est grave. Rappelons-nous que tendre avec des choses qui nous amènent dans la débauche, qui nous amènent dans la cupidité, qui nous amènent dans l'immoralité, qui nous amènent dans la malhonnêteté, c'est grave devant Dieu. Et parfois, ça n'a pas des conséquences immédiates. Parfois, ça a des conséquences directes. Hein. Si on est attrapé à faire certaines choses, il y a la honte immédiate. Parfois même, il y a le rejet. Pour certains, c'est l'emprisonnement. Pour d'autres, c'est le divorce. Mais devant Dieu, le péché a des conséquences. La souillure a des conséquences. Et Dieu ne peut pas, et n'est pas un Dieu qui laisse impuni le péché. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se retirer du péché, d'abandonner tout bourgeon de péché dans notre vie, quel qu'il soit, d'abandonner cela, de nous confesser et de laisser le sang de Jésus nous recouvrir à nouveau, nous pardonner. Et rappelons-nous que oui, il y a un choix que nous aussi, jour après jour, je pense que c'est un choix quotidien que nous devons faire, qui se charge chaque jour de sa croix, dira Jésus, hein. Chaque jour, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à rechoisir, comme le peuple d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux avoir un comportement boiteux? Est-ce que mon Dieu, c'est Dieu? Alors, je veux le suivre, d'accord? Si mon Dieu, aujourd'hui, c'est Dieu, je veux le suivre. Je veux faire ce qu'il me demande dans mon attitude envers les autres, dans ma gestion de mon argent, dans mes désirs intérieurs. Si Dieu est mon Dieu, alors je veux le suivre aujourd'hui. Est-ce que l'argent va te satisfaire pleinement? Ben vas-y. Mais si tu as déjà expérimenté que finalement ça ne satisfait pas, alors vois qu'il y a un danger. Alors, c'est pas l'argent en soi hein, qui est dangereux, vous savez. Vous connaissez le verset. L'argent est racine de tous les maux. Est-ce que quelqu'un peut me corriger? L'amour de l'argent est racine de tous les maux, n'est-ce pas? C'est l'attachement trop fort que je vais avoir sur l'argent qui est dangereux. L'argent en soi, merci Seigneur, on peut l'utiliser pour de bonnes choses. Mais c'est mon attachement trop fort. Mais derrière l'amour d'eux, en fait, on peut le mettre avec plein d'autres choses. D'une trop grande carrière, du matérialisme, etc. Donc, acceptons de sonder notre cœur. Et je pense que ce texte, les amis, cet après-midi, nous encourage à sonder notre cœur. Ruben ne laisse aucune place à aucune idolâtrie. Ruben, la place de l'idolâtrie, c'est tu la détruis. Comme on a cassé les autels de Baal, comme on a égorgé les prophètes de Baal, toi, tu dans ton cœur, tu ne laisses aucune place à l'amour du matérialisme, à l'amour de l'argent, à l'amour de toutes ces choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Et ma question cet après-midi, c'est de dire, mais où est-ce que le Seigneur veut que vous puissiez vous débarrasser de certaines idoles? Et où est-ce qu'il aimerait que vous puissiez manifester que vous suivez pleinement Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur? Que vous puissiez dire, si le Seigneur est votre Seigneur, allez-y. Et vous verrez que lui donne la réponse. Et ce qui m'a toujours interpellé, et je vais terminer avec ça dans cette histoire, c'est que Élie, je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène, il fait tout ce qu'il fait, mais vraiment c'était un peu presque un spectacle, hein, on pourrait dire, hein, n'est-ce pas? Ramener des pierres, reverser de l'eau encore, etc. Et après, tout seul, il prie. Franchement, il a pris un risque, n'est-ce pas? Il a vraiment pris un risque. Il devait vraiment avoir confiance en Dieu et Dieu devait vraiment être fidèle à ses promesses. Parce que franchement, si tu avais fait tout ça, il ne se passait rien du tout derrière. Et ça me rappelle aussi cette image de Paul qui voit un homme et qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il prend sa main et il le lève. Imaginez, il le levait, c'était un paralytique, vous savez, c'était un handicapé. Je lève l'handicapé, S'il n'y avait pas la puissance, il se passe quoi? Je leur fais encore plus mal après. Il retombe. Il avait tellement la foi que... Eh bien, les amis, notre marche chrétienne, c'est ça. Parfois, vous allez faire des choix. Des choix dans votre vie parce que vous dites, non, le plus important dans ma vie, c'est pas ma carrière, c'est mon Seigneur, Jésus. Non, le plus important dans ma vie, c'est pas d'être en couple, mais c'est de servir Jésus, d'être près de lui. Non, le plus important dans ma vie, c'est pas que je sois riche, mais c'est que je dois servir Jésus. Et vous allez faire des choix. Peut-être des choix où vous allez négliger la carrière. Peut-être des choix où vous allez négliger une rencontre avec quelqu'un ou une situation que vous aurez peut-être pu vous marier ou etc. Peut-être que vous allez faire des choix de finances ou si vous avez pris un certain chemin, vous aurez peut-être gagné plus d'argent. Mais là, parce que Jésus est celui qui vous conduit, vous allez faire des choix. Et le monde va vous regarder. Et peut-être certains déjà l'ont fait. Ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, vous êtes en train de prier Dieu et de dire, montre-leur. Montre-moi et montre-leur que j'ai fait confiance au bon Dieu. Vous êtes en train de prendre le paralytique en disant, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mais parce que vous avez confiance. Et comme je dis toujours aux gens quand je suis dans la rue, je dis, tu sais, si ce que je te dis n'est pas vrai, ça s'arrête là. Mais si ce que je te dis est vrai et que tu tends ta main, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aimerais nous dire cet après-midi. Oui, les amis, la réponse est bien, l'Éternel est votre Dieu. En Jésus-Christ, suivez-le. Suivez Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, jour après jour. Prenez avec lui votre croix et faites-lui confiance. Comme Élie a pu faire confiance qu'il allait faire descendre le feu du ciel, faites-lui confiance que Jésus-Christ est fidèle à ses promesses. Quand il dit « Je prendrai soin de toi, je t'accompagnerai jusqu'à la fin du monde, tu peux me faire confiance. Pour ta carrière, t'inquiète pas. Pour tes finances, t'inquiète pas. Pour ton argent, pour ta santé, pour ton couple, pour toutes ces choses-là, laisse-moi gérer. Toi, suis-moi. » Je vous invite encore à faire une prière maintenant où on peut renouveler, justement, notre désir de suivre l'Éternel comme ce peuple d'Israël qui dit à la fin, oui, c'est l'Éternel qui est roi. Donc si on peut remettre juste le verset 39. Voilà. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, je vous invite vraiment à reproclamer ça cet après-midi. Seigneur, oui, c'est toi le maître de ma vie. Je veux te suivre, quel que soit le coût, mais je veux te faire confiance que tu t'occupes de tout le reste. Notre Dieu, notre roi, merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole qui nous renouvelle. Seigneur Jésus, tu vois toutes les fois où nous pouvons nous laisser séduire par des idoles. Nous laisser séduire par des choses qui nous attirent loin de toi, qui au départ peuvent être anodines, pas mal en soi, mais qui vont prendre de la place dans notre cœur. Et on va commencer à nous tourner dessus et vont nous entraîner dans le péché. Et alors déjà, avec mes frères et sœurs, Seigneur, nous voulons simplement te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous nous éloignons, où nous laissons le péché prendre de la place dans notre vie. Pardon pour toutes les fois où nous laissons des bourgeons d'idolâtrie venir dans notre cœur et nous acceptons, Éternel Roi, de donner de la place à des choses qui ne devraient pas avoir leur place. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui a porté la punition de notre idolâtrie. C'est Jésus-Christ qui a porté la punition de nos errances. C'est lui, le Tout-Puissant, qui a été ce sacrifice, qui a été immolé pour nous. Et fort de ce sacrifice, nous voulons te remercier pour le pardon que tu veux accorder cet après-midi à chacune et à chacun d'entre nous. Mais Dieu Jésus-Christ nous a aussi dit de le suivre, de faire de lui notre Seigneur absolu. Et si encore cet après-midi, ce que nous voulons faire, Dieu Tout-Puissant, renouveler notre engagement. Comme le peuple d'Israël, Éternel, nous voulons dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, je te prie de nous aider à parler comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je te prie de donner la force à tes enfants, de leur donner confiance en toi, que par la puissance du Saint-Esprit, tu vas nous aider à marcher à ta suite. Tu connais les domaines de nos vies où nous avons besoin de changer notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de penser, nos désirs, Nous te demandons que par l'œuvre gracieuse du Saint-Esprit, nous puissions être guéris et ressourcés. Merci Seigneur, parce que nous pouvons te faire confiance. Et c'est toi qui as fait descendre le feu du ciel, mais c'est aussi toi, Dieu Tout-Puissant, qui a fait descendre le Saint-Esprit pour que nous puissions être transformés. Et aujourd'hui encore, ton Esprit Saint peut transformer les vies de mes frères et sœurs, de ma propre vie, et c'est encore sur cet Esprit Saint de Jésus-Christ que nous comptons. En ton nom, Seigneur. Amen.